Page 148 de « Si tu savais le don de Dieu » du chanoine Weber, « Les quatre évangiles en un seul » aux éditions Tradition monastique de Flavigny. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48, chapitre 7, verset 12, Saint Luc, chapitre 6, versets 29 à 36. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore la gauche. Si quelqu'un prétend vous citer en justice pour vous enlever votre tunique, abandonnez-lui encore votre manteau. Si quelqu'un veut vous contraindre à faire avec lui 1000 pas, faites-en 2000 autres. Donnez à quiconque vous demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut vous emprunter. Ce qu'on vous ravit, ne le réclamez pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Ici, nous avons un des cœurs de la foi chrétienne, c'est un Dieu qui nous invite à nous sacrifier et à aller au-delà de la justice naturelle. La justice naturelle, parmi les quatre vertus cardinales naturelles, vous avez la prudence, vous avez la justice, vous avez la force et vous avez la tempérance. Ces quatre vertus étaient étudiées par les philosophes grecs et romains et font partie vraiment de la, si vous voulez, de la réflexion de la raison humaine. On peut essayer de trouver d'autres vertus actuellement, mais les vertus cardinales, ce sont des vertus, le cardo, c'est l'axe. Donc, ce sont les quatre vertus essentielles et toutes les autres vertus, comme la patience, la longanimité, font partie d'une des quatre vertus cardinales, d'où leur nom. La justice est la première des vertus parce qu'elle consiste, la prudence est la première des vertus parce qu'elle consiste à bien agir. À agir comme il faut. Et donc, ce qui nous pousse à distinguer entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. La vertu de prudence, c'est la raison droite dans l'agir, dans les actions quotidiennes. Quelqu'un est prudent lorsqu'il fait le bien. Et on doit faire le bien à tout instant. La prudence, donc, consiste à réfléchir, à prendre conseil, à estimer quel est le meilleur conseil. Enfin, le conseil nous permet, la réflexion nous permet de réfléchir sur les moyens pour obtenir une fin. Après avoir réfléchi, on prend le meilleur moyen et on le met en action. On exécute, on agit selon ce qu'on a décidé. Vous voulez aller à Marseille, vous pouvez y aller à pied, à cheval, en voiture, par le canal du Midi, en hélicoptère, en avion, et en train. Donc suivant vos moyens, suivant votre santé, eh bien vous allez choisir le meilleur moyen. Mais à un moment donné, vous voulez aller à Marseille, donc vous allez choisir un des moyens. Vous voulez bien vous entendre avec vos voisins. Eh bien, vous ne claquez pas la porte, vous retirez vos chaussures à l'intérieur de votre maison si c'est très sonore, vous mettez des tapis, Vous voulez bien vous entendre avec dans votre famille, eh bien, aux repas familiaux, vous êtes agréable, vous ne rappelez pas les anciennes querelles, vous ne ravivez pas les rancunes. Ensuite, tout cela, vous voyez, se réfléchit ensuite se distingue et se met en application. La vertu de prudence est chez nous immédiate. Elle consiste par exemple à marcher dans la rue et éviter un obstacle. Vous voyez un trou dans le sol avec des barrières. Vous n'allez pas écarter les barrières pour sauter dans le trou. Ça serait très imprudent. Vous voyez, eh bien, la prudence est permanente chez nous. On réfléchit tout le temps, on estime tout le temps et on agit tout le temps. Pour se lever, pour tenir la porte à quelqu'un, pour boire, pour manger. Et lorsque quelqu'un est malade, eh bien, la vertu de prudence peut être... En fait, c'est vraiment le cœur même de l'intelligence et de la pensée. L'animal n'est pas prudent, il est instinctif. Il s'écarte du feu parce que Dieu lui a mis la peur du feu. Nous nous écartons du feu par instinct animal, mais aussi nous calculons et nous voyons qu'est-ce qui peut nous brûler. Et nous allons éviter par prudence ce qui peut nous brûler. Et ça, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de comprendre le pourquoi et le fonctionnement des choses que les animaux n'ont pas. Alors, la deuxième vertu cardinale, c'est la vertu de justice, qui va aider la vertu de prudence, qui se concurrence en importance, puisque c'est la vertu qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. À l'intérieur de la vertu de justice, vous avez la première vertu qui en découle, qui est la vertu de piété. La vertu de piété consiste à rendre à son supérieur l'honneur qui lui est dû, ou à celui qui a des mérites l'honneur qui lui est dû. Ses parents, eh bien, de la plupart du temps, sauf épreuve de la vie, eh bien, nos parents se sont occupés de nous, et on doit à sa mère, par exemple, de nous avoir nourris, lavés et vêtus pendant des années, alors qu'on nous serions morts en quelques jours si nous avions été laissés à nous-mêmes. Ça, c'est la justice la plus stricte. Voyez. Ensuite, la piété consiste aussi à rendre à ses parents tout le temps et toute l'attention qu'ils nous ont donné, au-delà des moments où nous étions sevrés et nous pouvions manger nous-mêmes, pour notre éducation. La vertu de piété va nous permettre aussi, par rapport à Dieu, alors là, de lui rendre ce que l'on peut lui rendre, l'existence, mais vis-à-vis de nos parents aussi, on doit leur rendre la procréation, puisque nos parents nous ont procréés avec Dieu. Ils ont été la cause de notre existence, la cause secondaire. C'est pour ça que même l'enfant d'une prostituée va quand même essayer de trouver son père, qui était un client de passage. Pourquoi ? Parce que cet homme a été l'occasion de son être, de son existence. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et un jour, comme ça, il y avait une femme SDF qui était la fille d'une prostituée. Eh bien, elle disait au journaliste : je donnerais beaucoup pour voir mon père une seule fois. Alors que c'était un client de passage de sa mère. Mais, si vous voulez, elle a un corps, la moitié de son corps, la moitié de son visage dépend de ce père. C'est très fort, hein, la loi du sang, c'est la raison pour laquelle lorsque on adopte, on doit surmonter chez l'adopté ce désir à un moment donné de savoir d'où il vient, même si c'est très difficile pour lui de s'apercevoir que son père était un homme totalement indifférent qui l'a abandonné ou autre, oui. Ou une mère qui était une personne cruelle et mauvaise. Bon, voilà. Mais voyez-vous, la vertu de piété fait que nous avons une obligation en justice de prier pour l'auteur de nos jours, même s'il est méchant et mauvais. Même s'il nous a fait souffrir aussi. Parce qu'on lui doit l'existence tout de même. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. D'où le crime particulier du parricide. Vous voyez, de tuer ses parents. C'est plus grave que de tuer son voisin. Gifler sa mère est plus grave que de gifler son frère ou sa sœur ou son camarade de classe. La vertu de piété s'étend aussi à ceux qui nous enseignent, à ceux qui nous disent la vérité, à ceux qui nous apprennent à lire et à écrire, à l'institutrice, à l'instituteur, au professeur. Et donc, et aussi, c'est par piété qu'on respecte les prêtres, voyez, qui doivent normalement être serviteurs de Dieu, se donner à prêtre debout, peuple assis, à prêtre assis, peuple couché, et à prêtre couché, peuple impie. C'est-à-dire que le prêtre donne le ton d'une communauté, normalement. Et donc, toute cette vertu de piété est très belle, mais si on revient à la vertu de justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est que quand vous faites un crime, vous tuez quelqu'un, eh bien, œil pour œil, dent pour dent, normalement, vous devez être tué. Ça, c'est la justice naturelle. La peine de mort est de droit naturel. Hein, au risque de vous choquer, c'est une réalité de la justice stricte. On punit celui qui a fait du mal à la hauteur de ce mal. Et d'ailleurs, c'est une grande amélioration, dit-on, voyez, de, comment dire, œil pour œil, dent pour dent, parce que dans une dureté humaine, eh bien, lorsque vous aviez un membre d'un village qui était tué par un autre village, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait tout le monde dans le village à côté. Et c'était disproportionné. La justice est dans la proportion. Vous tuez une vache, on vous tue une vache, vous payez la vache. C'est ça la justice. Ça peut être aussi beaucoup moins dur, c'est simplement vous achetez une baguette de pain, eh bien, vous donnez le prix de la peine de la baguette. La justice consiste à être aussi payé du travail que l'on fait. Donc, si le salaire ne correspond pas à la peine et à ce que vous faites pour pouvoir vivre honnêtement, c'est un très grave péché qui... crie vengeance devant le trône de Dieu. Donc, entre la gauche et la droite, il faut qu'ils fassent bien attention. Vous voyez, on dit que la droite est exigeante et n'aime pas l'assistanat, et que les gens doivent travailler pour avoir leur salaire. On dit que la gauche est plus indulgente et va aider celui qui est dans la difficulté plus que l'austérité d'un homme de droite. C'était ce qui différenciait au point de vue sociologique, au point de vue social, la gauche et la droite. Maintenant, on ne sait plus trop ce qui les distingue, mais c'était un peu ça. Et donc, le libéralisme comme... si vous voulez, vous aviez une teinte. Vous aviez le fait d'avoir des allocations familiales, c'est une solidarité d'un peuple pour ceux qui vont... fonder une famille et offrir un avenir par les enfants d'une manière plus particulière pour le pays. Et c'est ce qu'on appelle la justice distributive. Vous voyez, c'est selon les mérites, on va donner des récompenses. Vous voyez, selon ce qui est apporté par les uns et les autres. Pour la peine de mort, au numéro 2266 du catéchisme de l'Église catholique de 1992, il vous est dit, en matière de justice, préserver le bien commun de la société exige la mise, exige, vous voyez, la justice, c'est rendre obligatoirement à chacun ce qui lui est dû. Exige la mise hors d'état de nuire de l'agresseur. Donc vous le ligotez, vous le mettez en prison. Et s'il a une arme et qu'il continue à tirer, vous le ligotez, mais vous prenez un lasso, un peu de loin quand même. Et s'il tire, il tire, il tire, ben vous avez tendance à vouloir lui tirer une balle dans le genou, hein, pour qu'il arrête de tirer. Et s'il continue de tirer par terre, ben vous lui tirez une balle dans la main, hein, si vous arrivez à viser ou ailleurs. Voilà. Et puis il tire plus. Voilà. Donc on le met hors d'état de nuire, ce qu'on appelle la légitime défense. À ce titre, l'enseignement traditionnel de l'Église a reconnu le bien fondé du droit et du devoir. Tous les mots sont pesés dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992. Et du devoir de l'autorité publique légitime. Donc on ne peut pas se faire justice à titre privé, sauf légitime défense urgente. De sévir par des peines proportionnées à la gravité du délit. Sans exclure, dans des cas d'une extrême gravité, la peine de mort. C'est écrit dessus. Pour des raisons analogues, les détenteurs de l'autorité ont le droit de repousser par les armes les agresseurs de la cité dont ils ont la charge. Ça s'appelle communément la guerre. Donc la Vierge, la Sainte Église permet la guerre juste. On ne pêche pas lorsqu'on fait la guerre qui consiste à repousser par les armes les agresseurs de la cité. Toute la difficulté est dans la guerre préventive. Donc, nous avons, ici je ne développe pas plus, parce que là où je veux en venir, je vous dis en un mot, la troisième vertu, c'est la vertu de force, qui consiste à résister à un mal, ou à exciter son énergie pour obtenir un bien. Ça peut être ce qu'on appelle l'énergie, hein, l'agrédir en latin, c'est le fait de se mobiliser, d'avoir de l'agressivité au sens non négatif du terme. Et vous avez le soustinéré dans la vertu de force qui est de supporter, de ne pas avoir encore le bien que vous désirez, ou que de supporter que le mal qui vous accable ne soit pas encore, ne cesse pas. Et finalement, la vertu de force a une sous-vertu de la vertu de force, c'est la vertu de patience. Et celui qui est patient, en fait, il est fort. C'est pas seulement celui qui rend coup pour coup, celui qui est fort, qui résiste, qui se défend, mais c'est celui qui est patient, qui sait être tolérant. La tolérance est aussi une vertu, la vertu de force. On tolère un mal pour en attendre un bien, un meilleur ou quelque chose de meilleur plus tard. La vertu de tempérance, elle est beaucoup plus simple. C'est tout ce qui est ce qui tempère nos instincts animaux et plus particulièrement notre sensibilité, notre nervosité au sens corporel du terme, notre aspiration au plaisir de la bouche, au plaisir de la peau et des sens, des yeux, de l'odorat, de l'ouïe. La vertu de tempérance nous demande de ne pas écouter pendant 5 heures de la musique classique. C'est un péché. C'est excessif. Du rap, c'est peut-être un péché plus important, parce que c'est une musique un peu plus pauvre. Mais il peut y avoir des traits mélodiques intéressants, ou des textes plus intéressants que d'autres. Mais tout est dans la modération, la vertu de tempérance. Vous voyez, actuellement, les gens sont intempérants par l'ouïe. Ils écoutent beaucoup de musique. Mais actuellement, les jeunes sont devenus de plus en plus sourds. Ils préfèrent finalement jouer à Internet plutôt que d'écouter de la musique pendant des heures comme il y a 10 ans. Vous n'avez pas remarqué? Ils écoutent moins de musique. Mais ils en écoutent encore beaucoup. Oui. Mais c'est intempérant. Vous allez dire, alors, vous alliez nous parler de la drogue ou de l'alcool? Oui, mais... Ou une personne qui dépense des fortunes en parfum. Vous pouvez acheter un parfum, mais si vous achetez un parfum à 10 000 euros la bouteille, voyez, de 25 centilitres, sur les Champs-Élysées, vous avez un magasin de parfums d'Orient et de baumes absolument extraordinaires. Je suis sûr que vous trouverez au moins à 2 000 € un petit flacon comme ça. Vous voyez? D'un parfum extrêmement capiteux. Alors, si vous le faites pour une fête particulière ou autre, peut-être. C'est comme un Romanée Conti, vous voyez. À 3 000 € la bouteille, il faut vraiment que ça soit un grand anniversaire ou un événement particulier. Mais c'est possible. Vous voyez. Mais c'est intempérant si vous le prenez tous les dimanches pour votre repas de midi. Voilà. À moins que vous vouliez aider profondément le vignoble du Rhône. Voilà. Alors là, je vous ai parlé donc de ces vertus. Eh bien, notre Seigneur, lui, va mettre le désordre dans la vertu naturelle pour un ordre supérieur. L'ordre supérieur, c'est la miséricorde. C'est-à-dire le cœur qui se penche sur la misère, sur le fait de ne pas respecter la vertu. La vertu, c'est la force d'âme. Virtus, en latin, c'est la force. Ça vient de vir, l'homme. Et donc, celui qui est fort, et qui a des muscles solides, qui vous cassent la figure d'un coup de poing. Voilà. Celui qui est vertueux. Donc, ça, c'était le sens originel. Et de manière plus légère. Et plus abstraite et plus... Donc, au sens figuré, c'est la force d'âme. Eh bien, notre Seigneur nous demande d'avoir une vertu surnaturelle. C'est-à-dire que lorsqu'on nous gifle, au lieu de rendre la gifle, on doit tendre l'autre joue. C'est totalement injuste. Vous voyez ? Normalement, quelqu'un vous gifle, vous devez le gifler en retour, pour le calmer au moins. Voyez. Sauf si vous êtes... c'est une peine qu'on vous applique, vous voyez. Un enfant insolent qui insulte sa mère mérite une gifle. Alors, je ne sais pas si dans 5 ans, le fait de dire ça et que ça soit mis sur le site vaut que j'ai la marée chaussée qui vienne le matin pour m'arrêter, comme incitation à la haine. Et mais pour, si vous voulez, je me permets de vous dire qu'on peut donner des gifles. Mais normalement, il faut que ça soit quelque chose de très grave. Par exemple, il y avait un enfant. Saint Jean Bosco a toujours dit à ses éducateurs d'éviter de donner des gifles. Eh bien, un jour, il y a un enfant qui a blasphémé devant lui, qui a juré comme c'est pas possible devant lui. Et Saint Jean Bosco a craqué, il lui a donné une gifle monumentale d'ailleurs. Et mais il en était pas, il était malheureux, mais ça l'a, c'est parti tout seul. Vous voyez. Voilà. Et donc c'est une punition à ce moment-là. Mais si c'est injuste, vous devez vous défendre et rétablir la justice. Donc vous punissez celui qui vous a blessé injustement. Et vous lui rendez la gifle. Donc c'est toujours la même histoire, vous avez quelqu'un qui gifle un prêtre, qui pieusement tend l'autre joue, l'autre le gifle une deuxième fois, en haine de la foi et en haine du prêtre, et ensuite le prêtre lui donne un coup de poing dans l'estomac, sous les côtes, ce qui fait très mal. L'autre, plié en deux, dit « ce n'est pas normal, un prêtre ne devrait pas me frapper », et le prêtre de lui dire « après, il n'y a plus rien d'écrit. Liberté, voyez. J'en ai pris une, j'en ai pris deux, mais après, le Christ nous a pas dit, prenez une troisième gifle, on peut y aller. Et pour reprendre Saint Jean Bosco, il y a quelqu'un qui s'était précipité sur lui alors qu'il traversait un pont, et Saint Jean Bosco l'a fait passer par-dessus le pont. Parce qu'il était assez costaud et qu'il avait fait des acrobaties quand il était jeune. Il pouvait monter le long d'un mât et faire le drapeau, hein, Saint Jean Bosco, ou le poirier sur un mât, voyez, quand il était plus jeune. Et donc, il avait gardé, vous savez, les muscles, en fait, quand vous les formez, après, ils diminuent moins que si vous ne les avez pas formés. Donc, Saint Jean Bosco avait jeté par-dessus le pont l'autre. Alors, bon, il est tombé dans l'eau. Ou... Mais il agressait Saint Jean Bosco. Il a fait simplement une prise de judo, en quelque sorte. Voilà. L'histoire ne dit pas, justement, si l'autre a survécu ou... Mais on a voulu tuer Saint Jean Bosco parce que il convertissait beaucoup d'âmes et s'occupait des enfants. Et vous aviez les Vaudois, qui étaient une église protestante du nord de l'Italie, du côté de Turin, et qui, certains Vaudois, ont voulu le tuer. D'ailleurs, à un moment donné, alors qu'il faisait un cours de catéchisme, quelqu'un lui a tiré dessus avec un fusil de la fenêtre. Et la balle a troué sa soutane, mais dans le coin ici, vous voyez. Donc il visait bien sûr le tronc, hein, mais la balle a traversé ici. Et il a fait « Oh, ma soutane !» Dans le sens où Saint Jean Bosco se moquait complètement de mourir. Enfin, il s'y préparait bien, sans doute. Voilà. Et donc... Trêve de plaisanterie, notre Seigneur ici est très exigeant, et en fait, à mon avis, pour reprendre mon pessimisme eschatologique, nous ne parvenons plus à cette finesse évangélique, où nous étions beaucoup plus patients, les uns envers les autres aussi, et ce qui faisait que la société chrétienne était vraiment différente d'une société païenne. Nous sommes beaucoup plus durs, voyez. Et nous-mêmes, voyez, nous ne sommes pas très tolérants, mais seulement, vous allez me dire, oui, mais enfin, s'il n'y a que les chrétiens et tolérants, à la fin, on est vraiment les dindons de la farce. Eh oui. Ce qui fait que, voilà. Mais quand vous avez une mère Teresa, n'est-ce pas, qui est très patiente, qui est... C'est elle dont on va se souvenir aussi, vous voyez. À Saint-Vincent de Paul, ceux qui donnent toute leur fortune, un Saint-Louis de Gonzague ou des ermites qui sont partis, qui ont donné tout leur bien. Et c'est injuste, hein, en soi. Vous avez une fortune familiale, vous n'avez pas à la donner aux pauvres. C'est pas obligatoire. Vous devez aider les pauvres en justice naturelle, c'est-à-dire que si un pauvre est en train de mourir de faim ou de froid, à un moment donné, vous devez l'aider. Donc ici, à Paris, vous faites le 115, mais s'ils ne viennent pas, et ici, par exemple, il fait moins 5, ben, je suis désolé, vous pouvez pas partir. Si vous êtes tombé nez à nez avec quelqu'un qui est dans le coltard et qui y fait moins 5, ben, tant que les pompiers sont pas là, tant que le 115 n'est pas arrivé, vous êtes responsable en justice de la personne qui est devant vous. C'est pas de la miséricorde ou de la... C'est en justice. D'ailleurs, vous pourriez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Et là, c'est la justice civile qui vous poursuit, ou pénale. Eh bien, actuellement, on paye des impôts. Ce qui fait qu'on se dit, puisque je paye des impôts, il va y avoir des pompiers qui vont venir, il va y avoir un gymnase qui va être ouvert, il va y avoir une station de métro qui va être ouverte, donc je passe mon chemin. Vous voyez ? Voilà. Et bien dans un village, vous aviez un pauvre air qui arrivait, si ce n'était pas un brigand de grand chemin, eh bien on le nourrissait, il y avait la place du pauvre... Et on le mettait dans la grange, hein, avec les bêtes, mais il faisait chaud. Voilà. Avec les vaches, il faisait chaud. Vous aviez des maisons, vous aviez les vaches au rez-de-chaussée et les habitations au premier étage, parce que la chaleur des animaux montait et vous chauffait, hein, gratuitement. Donc, toutes cette difficulté de l'évangile, c'est d'aller au-delà de la justice naturelle. Vous avez ici un commentaire. « Notre Seigneur ne condamne pas la légitime défense, mais il déclare qu'il serait plus parfait de ne pas y recourir. » lorsqu'il ne s'agit que de soi. Vous vous rendez compte? Vous aviez un saint qui est là, qui est agressé par des voleurs. C'est un religieux, un saint moine. Je ne me souviens plus de son nom, mais il est canonisé. Et il avait de la part du trésorier du monastère, il lui avait donné quelques pièces pour son voyage, parce qu'il partait pour jusqu'à Rome ou d'une ville à une autre, et donc il avait dans ses affaires quelques pièces pour manger au cas où il ne trouverait pas des personnes pour le nourrir. Et les voleurs l'agressent, le frappent. Il dit mais j'ai pas d'argent, parce qu'il a tellement pas l'habitude d'avoir de l'argent et alors qu'il le laisse un peu amoché par terre, lui il reprend un peu ses esprits, il se dit mais cousu dans ma doublure, l'économe du monastère m'a donné des pièces. Donc il court derrière les voleurs en disant j'ai des pièces. Est-ce que qu'est-ce que c'est que ce fou? Voilà. Et donc, pour la petite histoire, le bon Dieu a suscité cette folie évangélique, n'est-ce pas? Et ces voleurs se sont convertis. Alors, on dit, oh, c'est une histoire pour les enfants, c'est faux. Ben, si, c'est vrai. Les voleurs ont été tellement impressionnés qu'ils lui ont demandé pardon, ils lui ont rendu les pièces, et puis après, eux, ils ont réfléchi sur... la notion de vol, vous voyez, parce qu'il se trouvait avec un moine qui voulait leur donner de l'argent. Alors peut-être que c'était en justice stricte, peut-être qu'il pensait que ce sont des gens qui étaient poussés à la misère à un tel point qu'ils étaient obligés de voler. Comme en droit civil, en droit pénal, quelqu'un qui est poussé par la faim peut se servir sur une étale. Et si on prouve que cette personne était dans la nécessité, on ne peut pas le condamner, on ne peut pas le poursuivre. Indépendamment du laxisme de la justice, hein, qui fait qu'une personne qui a un collier en or, qui a des liasses de billets dans sa poche et qui prend un iPhone en ayant cassé une vitrine, n'est pas dans la nécessité d'avoir un iPhone. Même si ça, il ne sera pas mis en prison ou autre. Alors, emprunter. Vous avez des gens qui vous empruntent de l'argent. Alors c'est très dangereux d'emprunter de l'argent. En général, voyez, vous perdez des amitiés facilement avec l'argent. Vous voyez, vous étiez amis, puis d'un coup, il vous emprunte une certaine somme qu'il n'arrive pas vraiment à vous rembourser et vous êtes fâché. Ouais. Eh bien, c'est notre Seigneur nous dit qu'on doit prêter. Ouais.